Bonjour. Alors, j'aimerais prêcher ce matin sur deux mots, je sais. Parce que si vous regardez dans la Bible, eh bien, à plusieurs reprises, mais pas si souvent que ça, il est question de cette affirmation, je sais. Et je crois que c'est important de savoir les choses, n'est-ce pas? Quelquefois, on croit savoir, hein, d'ailleurs, beaucoup des choses que l'on croit savoir, eh bien, sont probablement non fondées. Mais ici, il y a trois affirmations de « je sais » que j'aimerais qu'on approfondisse. Alors, je n'ai pas prévu un long message, donc tant mieux pour ceux qui sont déjà fatigués. Mais je savais qu'il y avait la présentation aussi sur le travail à Calais, donc voilà. Alors, la première affirmation de « je sais » se trouve dans Job, au chapitre 19. Une remarquable affirmation. Cet homme a terriblement souffert, comme vous savez, tout le monde connaît l'histoire de Job, et il a souffert parce que Dieu a permis qu'il souffre des choses terribles. Et il était, à l'époque où il a fait cette déclaration, je sais, eh bien, il était dans un état de détresse. Il était dans un état où il avait le sentiment que tout le monde l'avait abandonné. Il dit au verset 13, il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. Il est dans cette situation terrible, n'est-ce pas, de rejet, de maladie, de souffrance. Et néanmoins, il fait une proclamation et c'est ça qui donne de la valeur à son affirmation, je sais. Il dit au verset 25, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Voilà, on dit souvent je sais ceci, je sais cela, mais quand on a quelqu'un qui est dans la détresse, quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui est rejeté, quelqu'un qui est malade, qui est méprisé, qui est abandonné, et qui peut dire voilà, tout ça je le sais. Mais je sais quelque chose de plus important, de plus profond, de plus sûr, c'est que mon Rédempteur est vivant. Est-ce que ce matin, vous pouvez dire, est-ce que je peux dire, je sais que mon Rédempteur est vivant, celui qui me rachète est vivant. Oui, quand on se déclare chrétien, eh bien, ça veut dire on se déclare qu'on a été racheté par Jésus-Christ. Mais est-ce que, premièrement, on sait qu'il est vivant? Pour voir s'il est vivant, eh bien, il faut juste vivre avec la personne. Il faut voir la personne, observer la personne, et on voit si cette personne a un Dieu vivant. Combien de gens en France et en Europe se déclarent chrétiens, mais à l'intérieur, ils ont un Dieu qui est mort, qui n'est pas du tout le Dieu de la Bible. Il s'appelle Dieu, il est cité comme étant le Dieu de la Bible. Mais il n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible, parce que Jésus-Christ, qui est le Dieu de la Bible, eh bien, est vivant. Et s'il est vivant, il est vraiment dans nos vies, qu'il remplit nos vies par son Saint-Esprit, alors il doit y avoir une vie spirituelle en nous, il doit y avoir quelque chose qui vit, qui brille, qui agit, n'est-ce pas, qui donne la vie aussi autour de nous. Et quand on voit la vie de la personne, est-ce qu'on peut dire Dieu est vivant? Quand on vous regarde, est-ce que les gens peuvent dire oui, je sais que Dieu est vivant? Est-ce que vous avez le témoignage, non seulement verbal, mais aussi dans votre comportement, que Dieu est vivant, que Dieu vous a transformé, que Dieu vous a changé, que vous pouvez toucher les cœurs des autres personnes autour de vous? Parce qu'on voit la vie de Dieu, de Jésus-Christ dans votre vie. En tout cas, Job, bien longtemps avant le Nouveau Testament, pouvait parler de Dieu comme étant son Rédempteur, c'est-à-dire celui qui le rachète. Et il pouvait dire qu'il est vivant, parce qu'il le savait, il a vu simplement encore une manifestation de la vie de Dieu plus tard, quand son épreuve était terminée, il a vu que Dieu était vraiment vivant. Et il pouvait le certifier à nouveau, je l'ai encore vécu, que Dieu est vivant. Mais j'aimerais m'arrêter surtout sur le fait qu'ils disent, je sais que mon Rédempteur, est-ce que vous avez été racheté? C'est frappant comme terme, mais c'est un terme qui est très important dans la Bible. Et c'est très important de savoir qu'on a été racheté à un grand prix, le prix du sang de Jésus sur la croix. Est-ce que c'est pas extraordinaire cela, d'avoir été racheté? Alors bien sûr, on est obligé de dire oui, c'est extraordinaire, parce que sinon on aurait l'air bizarre de dire c'est pas extraordinaire. Donc avec notre intelligence, on va dire oui, mais est-ce que dans notre cœur, il y a quelque chose qui dit oui, c'est merveilleux d'avoir été racheté, d'avoir eu quelqu'un qui a payé le prix? Vous savez, j'ai côtoyé quelqu'un qui avait une grosse dette il y a des années, une énorme dette, et il ne voyait pas comment il pouvait la payer. C'était impossible pour cet homme d'envisager de payer même la moitié de ce qu'il devait. Et un jour, il a appris que sa dette était effacée, que quelqu'un avait payé. Il n'a jamais su, je pense, qui a payé, mais quelqu'un avait payé. Et cet homme était libre. La liberté d'avoir la dette si lourde qui devait peser sur ses épaules jusqu'à sa mort, de savoir que c'était payé, que c'était réglé. Il n'était plus question maintenant de dette. On ne l'embêterait plus avec ça. Et j'aimerais savoir si c'est comme ça qu'on vit tous les jours, en disant « Seigneur, merci parce que ma dette a été payée, parce que tu as payé le prix. » Quelle est la dette que nous avons? Eh bien, la dette, elle commence dès notre naissance, parce que nous sommes nés pécheurs. Et parce que nous sommes pécheurs, nous devons payer, n'est-ce pas, le salaire du péché, c'est la mort. Il y a la mort spirituelle qui s'installe dans notre vie. C'est le prix, c'est le salaire de notre péché, de notre état de misère, n'est-ce pas, spirituelle. Et on doit payer pour ce prix. On doit payer. Dans l'Ancien Testament, les péchés étaient sanctionnés par la loi. Les péchés étaient condamnés. Il y avait des règles très strictes. Et les enfants d'Israël qui péchaient savaient qu'ils avaient quelque chose de grave qui les attendait, qu'ils allaient être jugés. Mais ils pouvaient être pardonnés, n'est-ce pas? Ils pouvaient être purifiés par le sang des animaux qui étaient offerts en sacrifice. Mais nous avons un sang plus excellent que cela, qui est le sang, bien sûr, de Jésus sur la croix. Est-ce qu'on prend la mesure de ce que ça représente? Est-ce que l'on prend la mesure de ce que Jésus a fait pour nous? Alors, évidemment, comme Jésus a dit quand il était sur la terre, ceux qui ont été beaucoup pardonnés aiment beaucoup, et ceux qui ont été peu pardonnés n'aiment pas beaucoup. N'est-ce pas? Si vous avez été pardonné d'une lourde dette, d'un lourd fardeau, alors vous aimez beaucoup le Seigneur. Et si vous avez été peu pardonné parce que vous avez peu reconnu que vous aviez besoin d'être pardonné, alors vous avez reçu peu de l'amour de Dieu en vous, et vous pouvez juste un petit peu aimer le Seigneur, juste dire intellectuellement, oui, je reconnais que son sacrifice sur la croix, c'était quelque chose d'excellent, mais au fond, vous ne le vivez pas dans votre vie. Mais en tout cas, Job pouvait le dire, je sais que mon Rédempteur est vivant, je sais qu'il m'a racheté. Est-ce que vous avez été racheté par Jésus? Et de quoi il vous rachète? Eh bien, il vous rachète de votre état de pécheur. Il vous donne une nouvelle nature. Au plus que je lis le Nouveau Testament, au plus que je vois que c'est ça le message de l'Évangile, c'est la nouvelle nature, c'est une vie nouvelle. Ce n'est pas un changement de règles. Ce n'est pas qu'avant, les gens sont dans le monde et ils font un peu n'importe quoi spirituellement. Et quand ils viennent à Dieu, ils se convertissent. Eh bien, ils ont des règles morales qu'ils commencent à appliquer. Ça, c'est ce qui se passerait si on se convertit au judaïsme, si on se convertit à une religion morte. Eh bien, il y aurait des lois qui géreraient nos comportements. Mais l'Évangile, c'est la nouvelle naissance, c'est une vie nouvelle, c'est quelque chose que Dieu nous rachète de notre ancienne manière de vivre pour nous donner une autre manière de vivre, non pas gérée par des commandements, non pas géré par des règles, non pas géré par des lois, mais géré par l'Esprit Saint, dans une vie qui transforme. Et quand les gens reçoivent le Saint-Esprit dans leur vie, quelquefois des années après leur conversion, à une église peut-être évangélique, eh bien, quand ils reçoivent le Saint-Esprit, ils trouvent que leur vie change, leur entourage leur dit, mais t'es plus comme avant. Les gens commencent à prendre conscience que les réactions qu'ils avaient, eh bien, sont plus les mêmes qu'avant. Mais c'est normal, c'est parce qu'ils sont animés d'une autre vie, n'est-ce pas, d'une autre nature. Et c'est ça qui est le merveilleux message de l'Évangile. Il nous rachète de notre ancienne nature. Et ce que j'aimerais dire, c'est pas seulement du péché qu'il nous rachète, mais il nous rachète de nous-mêmes. Parce que la chose la plus terrible pour nous, pour les hommes et les femmes, c'est qu'ils sont esclaves d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Ils sont esclaves de ce qu'ils sont de par leur nature. Ils sont esclaves de leurs habitudes. Ils sont esclaves de leur éducation. Ils sont esclaves des épreuves qu'ils ont reçues dans leur passé. Ils sont esclaves des traumatismes qu'ils ont vécus. Et il y a des gens, je me rappelle, un étudiant qui était venu me voir une année, il a dit... Pour moi, j'ai le sentiment que tout est échec. Tout ce que j'ai connu dans ma vie est un échec. Et cet étudiant qui n'était pas du tout chrétien de quoi que ce soit, il a dit ces paroles, il a dit, pour moi, il faudrait que je puisse recommencer à zéro. C'est très frappant, n'est-ce pas? De trouver dans l'expression, chez quelqu'un qui ne connaît pas du tout Dieu, l'expression de ce qui est le cri de l'Évangile. Il faut naître de nouveau. C'est extraordinaire. Et c'est parce que sa personne, son éducation, ce qu'il avait connu dans son enfance, dans sa jeunesse, avait fait de lui ce qu'il était. Il ressentait qu'il ne pouvait pas changer. Il ne pouvait pas changer quoi que ce soit. Il ne pouvait pas changer son caractère. Il ne pouvait pas changer sa personnalité. Il ne pouvait pas changer sa destinée vers un échec assuré. Il avait besoin que quelqu'un vienne changer sa vie, n'est-ce pas, sa nature. Et est-ce qu'on a été racheté de nous-mêmes? J'aimerais illustrer ça avec l'histoire de Ruth que vous lisez dans le Nouveau Testament. C'est une histoire, c'est un livre qu'on peut lire en un seul coup. On ne lit pas le livre de Ruth en plusieurs essais, en plusieurs fois. On lit le livre de Ruth en une seule fois, évidemment, et on peut le lire plusieurs fois. Quand on l'a lu une fois, on peut le relire tout de suite après. Et ce qui est étrange à la fin de ce livre, c'est qu'elle était veuve, elle avait été fidèle à sa belle-mère, elle avait suivi, elle avait été fidèle, elle avait pris soin de sa belle-mère, mais elle était donc veuve. Et il y avait quelqu'un qui voulait se marier avec elle, qui avait le droit de rachat. Selon les coutumes de l'époque. Il avait le droit de rachat, il s'appelait Boaz, n'est-ce pas? Et en fait, cet homme était bon, cet homme était un homme qui représentait Dieu. Et il avait le droit de rachat, mais il a dit, mais je ne peux pas te racheter. Enfin, je paraphrase. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a le droit de rachat avant moi. Et quelquefois, je me suis dit, mais alors c'est intéressant de voir si on voulait donner ça comme une image spirituelle. Et je me suis dit, voilà, je pense que c'est ce que Dieu nous dit à chacun. Il dit, je veux te racheter. Mais il y a quelqu'un qui a droit de rachat avant moi, c'est toi-même. Tu as le droit de rachat sur ta propre vie. Tu as le droit, je te laisse la liberté de gérer ta propre vie si tu ne veux pas que je gère la tienne, que je gère ta vie. Et Boaz était un homme honnête, il est allé voir la personne qui avait droit de rachat et il a dit, tu sais, tu as droit de rachat, est-ce que tu veux racheter? Et l'homme a dit, oui, je veux racheter. Et Boaz lui a donné toutes les conditions et donc après il a dit, oh non, je te laisse, tu peux racheter. Et j'aimerais que me poser la question, est-ce que moi-même, est-ce que nous-mêmes, chacun, nous sommes passés par là? Où Dieu nous a dit, tu sais, tu contrôles ta vie, tu diriges ta vie, tu manipules les circonstances pour que ça aille bien ou pour que ça aille dans une direction particulière. Ça, c'est parce que tu as le droit de rachat. Je te laisse le droit de rachat. Tu as le droit de gérer ta vie. Tu as le droit de faire ce que tu veux de ta vie. Mais sache que moi, j'ai envie de contrôler ta vie. J'ai envie de racheter ta vie. Et Ruth a bénéficié de cette expérience extraordinaire, de ce fait que cet homme qui avait le premier droit de rachat ait pu céder et donner sa place à Boaz. Et parce qu'elle s'est mariée à Boaz, elle est devenue l'ancêtre du roi David et l'ancêtre de Jésus-Christ. C'est parce que c'était dans le plan de Dieu, le plan divin, n'est-ce pas, qu'elle soit mariée à Boaz. Et ce matin, je voudrais dire que Dieu veut une chose, il voudrait qu'on puisse céder et lui dire, Seigneur, toi tu as le droit de rachat sur ma vie. Et je voudrais que ce soit toi qui gères ma vie. C'est le problème de beaucoup de gens qui sont dans les églises depuis longtemps, qui connaissent Dieu par cœur, qui connaissent la Bible par cœur. Quelquefois, il y a cette conviction que parce qu'on a un comportement religieux, que parce qu'on est reconnu sociologiquement comme étant des chrétiens, comme étant des gens d'église actifs, eh bien, quelquefois, on est encore esclave de nous-mêmes, n'est-ce pas? On a peut-être été esclave du péché et libéré du péché à la conversion, mais on est encore esclave de nous-mêmes. On est esclave de notre façon de voir, de nos idées, de nos convictions. Et le Seigneur dit, je voudrais tant racheter tout ça. Je voudrais tant te libérer de tout ce qui t'empêche d'être totalement libre, d'être totalement à moi. Parce que c'est ça que Dieu veut, il veut mettre son Esprit Saint, n'est-ce pas, dans nos vies. Alors est-ce qu'on peut dire ce matin, voilà, je sais que mon Rédempteur est vivant, celui qui m'a racheté non seulement du péché, non seulement d'une vie totalement corrompue, mais il m'a aussi racheté de moi-même. Et ça, vous le savez, prochaine fois que vous vous mettez en colère, vous pouvez savoir que vous n'avez pas été totalement racheté de vous-même, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, il dit que si quelqu'un se met en colère, que le soleil ne se couche pas sous sa colère. Alors certains disent, voilà, donc on peut se mettre en colère. Mais plus bas, quelques versets plus bas, il dit que toute colère disparaisse du milieu de vous. Et ça, c'est quand on est racheté de nous-mêmes, n'est-ce pas? On est racheté par le Saint-Esprit de notre façon de voir, de notre façon d'être. Peut-être vous avez l'habitude encore de dire des choses qui ne sont pas tout à fait droites, qui ne sont pas bien. Et vous dites, oui, mais c'est pas si mal que ça, ce que je dis. Eh bien, pourquoi vous dites c'est pas si mal? Pourquoi vous ne voulez pas dire la parole de Dieu, la volonté de Dieu, ce qui est bien? Pourquoi on dit c'est pas si mal? Seigneur, on dit quelquefois, je ne veux pas te déplaire. Est-ce que ça te déplaît si je fais ça? Non, hein? Voilà. Au lieu de dire, Seigneur, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Eh bien, ça, c'est parce qu'on est encore esclaves de nous-mêmes, n'est-ce pas? Et je ne le dis pas seulement pour vous, je le dis pour moi. Quand on a des réactions humaines, quand on écoute nos pensées, quand on a des convoitises, n'est-ce pas? L'apôtre Jean est très clair là-dessus. Il dit que la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, c'est le monde. Eh bien, on a besoin d'être libéré, on a besoin d'être racheté de ça. On a besoin que le Seigneur, par son sang, nous rachète de nous-mêmes. Quelquefois, les mauvais caractères, comme je le dis très souvent, mais il n'y a pas de problème de le dire très souvent, parce que c'est toujours, malheureusement, ça revient toujours chez les uns et les autres, et chez moi souvent aussi. Quelquefois, on revendique son caractère en disant « Oui, mais je suis comme ça, c'est cette famille ». J'ai cru que le Seigneur nous avait libérés du passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi vous ressemblez à vos parents? Pourquoi vous êtes, au niveau caractère, l'image de vos ancêtres? c'est parce qu'on n'a pas été racheté de nous-mêmes. On n'a pas été racheté. On a accepté le rachat de Dieu, de Jésus-Christ sur la croix. On l'a accepté pour les péchés, pour les choses graves, pour les choses qui sont manifestement reconnues par la loi de Dieu comme étant condamnables. Mais ce que Jésus a voulu montrer dans le sermon sur la montagne, c'est que ce n'est pas juste les actes. C'est ce qu'il y a bien avant les actes qui constitue un péché. Ce n'est pas le meurtre qui est un péché seulement. C'est le fait de s'irriter contre quelqu'un et dire qu'elle est insensée. Voilà, il dit c'est déjà le meurtre. Et personne ne peut vivre le serment sur la montagne, à moins que l'Esprit de Dieu vienne dans sa vie et le transforme, le rachète de ce qu'il était. Mais ça demande qu'on reconnaisse qu'on a besoin de Dieu. Ce qui est très difficile lorsqu'on a des années de conversion, lorsqu'on est reconnu comme étant des chrétiens, de dire voilà, Seigneur, j'ai besoin que tu me rachètes de ce que je suis, de ce que je suis au niveau du caractère, de la personnalité, de mes habitudes, de ces choses qui ont commencé il y a bien longtemps quand j'étais petit, qui me rachètent aussi du manque de pardon. N'est-ce pas? Sur un plan humain, c'est tout à fait normal. Si on enlève Dieu de totalement de l'histoire, eh bien le manque de pardon, c'est normal. N'est-ce pas? C'est normal. Quelqu'un vous a fait du mal, vous voulez réagir parce qu'on a atteint votre vie, on a atteint à votre intimité, on a atteint quelque chose de très profond chez vous. Et donc c'est normal de vouloir réagir mal. Mais dès lors qu'on met l'Évangile sur la route, ce n'est plus normal. Et le Seigneur sait par quoi vous êtes passé, il sait ce que vous avez connu. Il vous reproche pas le problème de pardon que vous avez suite à ça. Il vous reproche le fait que vous n'avez pas demandé qu'il vous donne la délivrance du problème de pardon. Il vous reproche de ne pas être venu à la croix du calvaire et de dire « Seigneur, moi je ne peux pas pardonner. Moi je ne peux pas laisser passer ça. Mais je veux laisser passer ça. Je veux que ce soit terminé. Je veux bénir la personne qui m'a fait du mal. Je veux pouvoir être libre. » Et c'est là où la liberté commence à venir. C'est là où vous allez dire « Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il m'a racheté. Parce que je suis libre maintenant. » Je me rappelle que moi, j'avais quelque chose contre quelqu'un une fois. Tout allait mal. Je ne pouvais pas voir cette personne sans critiquer intérieurement. C'est impossible. Et la personne ne souffrait pas du tout, parce que je le cachais bien. La personne ne souffrait pas du tout de mon attitude. Mais moi, ça me faisait mal. Ça rongeait ma vie. Ça rongeait mes journées. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a montré ce qu'il fallait faire. Évidemment, il ne m'a pas dit d'aller voir la personne et de lui dire les quatre vérités. D'accord? Ça, c'est les commandements humains, n'est-ce pas? Il faut dire à la personne ce qui ne va pas. Il faut être honnête. Non. L'Esprit de Dieu dit, va et humilie-toi. Demande-lui pardon. Et c'est là où la libération de Dieu vient immédiatement. C'est là où la liberté vient à l'intérieur. On est libre. C'est là où on comprend ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 7 et Jean chapitre 8. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est que vous n'êtes pas bon, mais que vous avez besoin d'être racheté. Rousseau a dit que l'homme est fondamentalement bon et c'est la société qui le corrompt. Mais l'homme est fondamentalement mauvais selon l'Évangile et c'est la société qui arrange les dégâts pour le rendre meilleur en apparence. Mais l'Évangile dit que l'homme est fondamentalement mauvais, mais c'est l'Esprit de Dieu qui lui permet de vivre comme un homme de Dieu, comme une femme de Dieu, sur la terre. Est-ce qu'on a été racheté? Est-ce qu'on a été racheté nous-mêmes? Est-ce que ce matin, vous pouvez rentrer chez vous et de dire « Je sais que celui qui m'a racheté est vivant, parce qu'il m'a racheté non seulement du péché, il m'a racheté de moi-même. » Et je suis libre. C'est ça qui est merveilleux, n'est-ce pas, d'être racheté pour être libre. Ça, c'est la première grande déclaration. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Le deuxième, je le cite souvent, mais je l'aime bien celui-là. C'est dans le Nouveau Testament, c'est dans Jean chapitre 9. Et vous connaissez trop l'histoire, donc ce n'est pas la peine de forcément de tourner. Mais voilà, bien sûr dans l'évangile de Jean, n'est-ce pas? Vous avez lu et relu et re-relu l'évangile de Jean, n'est-ce pas? Au moins une fois par semaine. Lire dans l'évangile de Jean ou l'évangile de Jean. Le sermon sur la montagne aussi, mais je ne le fais pas moi-même de lire aussi souvent, mais je devrais. Je le lis souvent, mais pas assez souvent. Sermon sur la montagne doit être lu au moins une fois par semaine. Il y a une époque de ma vie où je le lisais une fois par semaine pour être sûr, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que vous changez le sermon sur la montagne. Dans votre mémoire, il y a des versets qui sont barrés. C'est bizarre. Hein? Il y a des choses qui sont transformées. Par exemple, si on vous donne une gifle, on dit il ne faut pas se laisser faire. Ce n'est pas écrit dans le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est écrit que si on vous donne une gifle, il faut tendre l'autre joue. Ça veut dire qu'il faut aimer la personne qui vous a donné une gifle. Et il faut la bénir au nom du Seigneur. Mais ça, ça demande d'être acheté de soi-même, n'est-ce pas? Parce que soi-même a été vexé. On a été blessé, n'est-ce pas? On n'a pas été reconnu comme on aurait dû être reconnu. Dans les églises, c'est rempli. Malheureusement, on a la grâce de Dieu, nous, ici, en tant qu'anciens, d'avoir des frères et sœurs qui sont merveilleux. Mais il y a beaucoup d'anciens d'église qui souffrent terriblement parce qu'il y a des gens dans l'église qui cherchent à prendre la place, qui cherchent à dominer, qui cherchent à critiquer et qui, simplement parce qu'ils sont blessés à l'intérieur, ils ont besoin d'être achetés. On a tous besoin d'être achetés de nous-mêmes. Le deuxième, donc, c'est dans Jean chapitre 9, l'aveugle qui a été guéri. Il ne comprenait rien du tout. Alors là, j'aime beaucoup parce que, en fait, il dit au fond, je paraphrase, je sais que je ne sais rien, mais je sais que j'étais aveugle et que maintenant je vois. On l'a chanté tout à l'heure, Amazing Grace. D'accord, ce chant merveilleux, j'étais aveugle et maintenant je vois. Écrit ce chant par John Newton, qui était devenu aveugle après sa conversion. Avant, il ne l'était pas. C'était un trafiquant d'esclaves. Il était voyant, mais quand il s'est converti, il est devenu aveugle. Mais il a pu proclamer, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Parce qu'il a vu, ses yeux se sont ouverts spirituellement, n'est-ce pas? Et voilà, je sais que j'étais aveugle et maintenant je vois. Quel est votre témoignage? On l'entend hein, quand quelqu'un donne un témoignage. Quand quelqu'un peut dire, je sais que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Je sais que j'étais perdu, maintenant je suis sauvé. Est-ce que vous pouvez dire, je sais que si aujourd'hui je meurs, je sais que je vais dans la présence de Dieu, parce qu'il m'a donné cette certitude. C'est juste que je sais. Je ne peux pas vous expliquer, comme l'aveugle ne pouvait rien expliquer. Il ne pouvait pas expliquer aux pharisiens pourquoi, qu'est-ce qui était passé, qui est-ce qui avait fait ça. Tout ce que je sais, c'est que je sais qu'avant j'étais aveugle et maintenant je vois. Quel témoignage, n'est-ce pas? Quel témoignage de pouvoir le dire, de pouvoir le proclamer, mais pouvoir le vivre et que ça se voit. Ça se voyait chez cet homme. Est-ce que dans votre vie, on peut voir la différence avec avant? Est-ce que d'année en année, comme ça, on voit une différence dans votre vie dans le bon sens? On voit que vous progressez avec le Seigneur, vous marchez de progrès en progrès. Ou est-ce que on voit un état stationnaire ou un état en pente négative? Ça, c'est le deuxième « je sais ». Le premier, c'était « je sais que mon Rédempteur est vivant ». Le deuxième, c'est « je sais que j'étais aveugle et maintenant je vois ». Et le troisième, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans 2 Timothée chapitre 1. Il dit « je sais en qui j'ai cru ». Et j'aime beaucoup ça, c'est une parole de fin de vie, de quelqu'un qui a marché avec Dieu. Je sais en qui j'ai cru. Est-ce que vous savez en qui vous avez cru? En qui croyez-vous? Bien sûr, on va répondre, je crois en Dieu, puisqu'on est dans une église, il faut être cohérent avec soi-même. Si on se déclare chrétien, on doit déclarer qu'on croit en Dieu. Mais est-ce qu'on sait en qui on a cru réellement? Est-ce que quand on dit qu'on croit en Jésus, est-ce qu'on sait en qui on croit? Est-ce qu'on a placé toute notre confiance, toute notre vie en lui? Est-ce que notre avenir est totalement entre ses mains? Et est-ce qu'on est en paix complètement face à l'avenir? Parce qu'on sait en qui on a cru. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, je ne crois pas en Dieu, je crois en la science. » Alors, c'est très bien, croire en la science, c'est merveilleux. Seulement, si vous mettez votre confiance dans la science, vous aurez des grosses déceptions. On vient de perdre un appareil, une mission qui a coûté seulement quelques milliards, qui vient d'échouer cette semaine même. On va vous dire, c'est pas grave, on va recommencer. Donc, effectivement, c'est pas grave. Si on dit que c'est pas grave. Mais voilà, quel est ce Dieu de la science qui a ruiné la Terre, qui ruine l'univers autour de nous, qui ruine la santé, tout en faisant du bien aussi, n'est-ce pas? Mais c'est pas le Dieu que l'Évangile prêche. Le Dieu que l'Évangile prêche, c'est celui qui sauve, qui va à l'essentiel, qui traite les problèmes profonds des gens. Ce Jésus de l'Évangile, c'est pas celui qui dépense des milliards ou des millions. C'était celui qui donnait ce qu'il avait, le peu qu'il avait. L'Évangile, c'est celui qui est ému de compassion devant les foules. C'est celui qui prend soin avec amour de ceux qui ont besoin d'être sauvés, d'être secourus. C'est ça l'Évangile. Et en cet Évangile, eh bien, on a raison de croire, parce qu'on est, c'est rempli d'espoir, n'est-ce pas, rempli de bénédictions. Et malheureusement, ceux qui se confient dans la science, la science c'est très bien, je suis moi-même scientifique, la science est quelque chose de très bien, mais on ne peut pas se confier, on ne peut pas croire dans la science. On ne peut pas croire que la science va résoudre les problèmes. On ne peut pas croire qu'un système quelconque puisse résoudre les problèmes. D'autres disent, moi je crois à l'homme. Alors, quand on voit les représentants pour les élections aux États-Unis, on ne va pas parler de la France, aux États-Unis, pour les élections américaines, on croit plus à la femme là qu'à l'homme, n'est-ce pas? Je suis désolé de dire. Mais même là, on a vraiment quelque chose qui inquiète beaucoup. Et c'est la même chose dans beaucoup de pays. Je pense que les hommes sont perdus, les femmes sont perdues. Et ils ont besoin d'un grand bouleversement. Et s'ils ne connaissent pas l'Évangile, ils vont se confier dans l'homme. Mais je ne crois pas que les hommes, maintenant, peuvent contrôler ce qui se passe sur la terre. Ça dépasse tout le monde. Donc voilà, je sais en qui j'ai cru. C'est quelque chose de merveilleux de pouvoir le déclarer. Est-ce que ce midi, on peut rentrer chez soi en disant « Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que j'étais perdu et que je vois. J'étais aveugle et maintenant je vois. Je sais en qui j'ai cru. » Et ces trois déclarations doivent être faites, non pas seulement verbalement, mais dans notre vie, tous les jours, parce que c'est des proclamations merveilleuses que le monde a besoin d'entendre. Le monde a besoin d'entendre des gens qui disent « Je sais, pas je crois, pas je crois en Dieu, je sais qu'il m'a sauvé, je sais que mon Rédempteur est vivant. » Et ce sont des proclamations qui vont toucher les hommes et les femmes qui entendent ça pour la première fois, de savoir qu'il y a des gens sur la terre qui ont rencontré Jésus-Christ. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez rencontré? Est-ce qu'on a rencontré Jésus-Christ? Est-ce que c'est le fruit de cette rencontre, c'est cette certitude, cette assurance, cette foi? Alors je vais prier pour terminer, mais j'aimerais que dans nos vies, intérieurement, en secret, on puisse être sûr que ce matin, on peut dire, je sais qu'il m'a racheté. Je sais qu'il m'a racheté du péché, mais il m'a racheté de moi-même aussi. Il m'a racheté de ce que j'étais. Il m'a racheté de là où je viens. C'est glorieux, n'est-ce pas, de voir ça. Je me rappelle le témoignage d'une personne extrêmement digne dans sa présentation physique, dans sa façon d'être. Et cette personne a dit, je suis le fruit de la prostitution, je suis né dans la rue. Ma mère était prostituée. Il y avait impossibilité d'envisager que c'était vrai. Mais vous savez que dans Jean chapitre 3, Jésus a dit, l'esprit, on ne sait de où il vient ni où il va. Il en est de même de toute personne qui est née de l'esprit. On ne sait d'où elle vient. On ne pouvait pas dire qu'elle venait de la prostitution. Et on ne sait pas où elle va parce que le Seigneur la conduisait par un chemin qu'elle ne connaissait pas, mais sur lequel elle marchait par la foi. Voilà ce qui doit être le cas de notre vie, n'est-ce pas? Comment le Seigneur peut nous transformer réellement. Amen. Seigneur, ce matin nous voulons te demander, je veux demander ça pour moi aussi, que tu rachètes de la vaine manière de vivre. Tu rachètes tout, Seigneur. Tu l'as fait à la croix du calvaire. Ce n'est pas une question de faire quelque chose de nouveau. C'est une question de, Seigneur, ouvrir nos cœurs, nos vies, ouvrir ma vie à ton Esprit Saint. Pour que l'Esprit Saint, qui est l'auteur du rachat, Seigneur, se fasse son œuvre dans nos vies. Tu as dit que lorsque l'Esprit Saint viendrait, convaincrait le monde en matière de justice, de péché, de jugement. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu opères cette œuvre dans notre vie et nous puissions marcher avec toi en nouveauté de vie. Seigneur, marcher d'une manière qui touche le monde, qui parle aux hommes et aux femmes autour de nous. Marcher d'une manière qui t'honore, qui te représente. Nous n'avons pas le droit d'être appelés chrétiens si nous ne sommes pas comme Christ. Et Seigneur, nous voulons l'être comme toi, Seigneur. Fais ton œuvre dans nos vies, Jésus. Amen.